en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 2 février 2009, Bertrand Collomb de l'Académie des sciences morales et politiques faisait une communication en séance devant ses confrères. Communication intitulée « Les grandes écoles et l'excellence scientifique ». Retrouvons Bertrand Collomb.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, chers confrères, Mesdames, Messieurs, l'existence des grandes écoles, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président, notamment les écoles d'ingénieurs, et leur séparation de l'université, proprement dite, et leur place dans l'économie, sont effectivement un des éléments de l'exception française. Et mal comprise à l'étranger, fait l'objet chez nous de débats incessants. Certains y voient un point fort de notre dispositif de formation des élites, d'autres, au contraire, un système conservateur qui éloigne les meilleurs élèves de l'université, stérilise les capacités de recherche et d'innovation de notre pays et explique la place trop réduite que nous occupons dans la compétition mondiale pour l'excellence scientifique. Alors je voudrais essayer de dépasser ces débats souvent trop partisans et je voudrais, dans cette communication, retracer d'abord l'origine et les raisons d'existence des grandes écoles d'ingénieurs, le rôle qu'elles jouent toujours dans la formation des cadres de notre économie et dans la recherche, et surtout les évolutions actuellement en cours. J'évoquerai aussi en particulier l'action à laquelle je suis personnellement associé pour créer, à partir de 11 écoles existantes et sous le nom de ParisTech, une université technologique capable de concurrencer les grandes universités technologiques du monde anglo-saxon, telles que le MIT ou Cambridge. Alors le fait que l'école polytechnique ait été créée en 1794 par la Convention fait parfois croire que l'origine des grandes écoles d'ingénieurs est due à la Révolution, ce qui serait une explication facile de cette exception française. En fait, comme vous le savez, il n'en est rien. C'est sous l'Ancien Régime que Charles Daniel Trudaine, intendant des finances, qui avait sous sa responsabilité les ponts et chaussées et l'administration des mines, et qui fut d'ailleurs membre de l'Académie des sciences, éprouve le besoin en 1747 de créer une école pour former les géomètres et les dessinateurs, puis les ingénieurs des ponts et chaussées, dont le corps avait déjà été créé antérieurement en 1716. C'est le début de l'école des ponts et chaussées, dont le premier directeur fut Jean-Rodolphe Perronnet, qui fut aussi un des collaborateurs de l'encyclopédie. En cet heureux temps, l'école n'avait pas de professeur, et sous la conduite du directeur, une cinquantaine d'élèves s'entraînaient mutuellement à la géométrie, à l'algèbre, à la mécanique et à l'hydraulique. En 1749, le ministre de la Guerre crée à Mézières une école pour la formation des officiers et des ingénieurs du génie. Un peu plus tard, Gaspard Monge, remarqué par l'état-major de cette école, mais de trop modeste origine pour y être admis, car quatre quartiers de noblesse sont requis pour se présenter au concours de l'école de Mézières, y sera employé comme dessinateur. Il manifestera ses talents de géomètre en inventant une méthode graphique pour dessiner des fortifications imprenables. Et il y deviendra, en 1766, professeur de mathématiques. Alors, en 1783, l'école des mines est créée par arrêt du Conseil d'État pour, je cite, « enseigner les sciences relatives aux mines et à l'art de les exploiter ». Cette fois-ci, deux professeurs sont nommés et la scolarité est de 3 ans. En dehors des périodes de cours, qui sont de novembre à mai, vous voyez que l'année universitaire était encore plus courte que maintenant, les élèves sont envoyés dans des exploitations minières et ceux qui les reçoivent sont, en échange, dispensés des redevances de concession. Un système qui rappelle déjà notre taxe d'apprentissage. Et le roi, je cite, « afin d'encourager l'étude d'une science aussi intéressante, ordonne que 12 bourses soient attribuées chaque année aux enfants de directeurs et principaux ouvriers des mines qui n'auraient pas assez de fortune pour les envoyer étudier à Paris. » Le souci de promotion sociale n'est pas nouveau non plus. Parallèlement, en 1780, François de La Rochefoucauld-Liancourt crée une école de formation professionnelle pour les enfants des militaires pauvres de son régiment de dragons. Cette école professionnelle des enfants de la patrie deviendra la première école des arts et métiers qui formera d'abord des contremaîtres ou des chefs d'atelier, puis à partir de 1907, des ingénieurs. Le premier mouvement de la Révolution sera bien sûr de réaction contre les manifestations du pouvoir royal. Ainsi, l'école des mines est supprimée en 1791, tandis que l'accroissement des prérogatives des ingénieurs des ponts et chaussées soulève déjà de nombreuses critiques contre une politique trop autoritaire. Mais la nécessité de former davantage de cadres techniques et scientifiques pour les besoins civils et militaires s'impose tout de même. mais aussi avec le souci de supprimer les privilèges et de s'assurer de la loyauté révolutionnaire de ses cadres. Alors en 1793, la Convention crée une commission où figurent notamment Monge, Lamblardy, Carnot, le père, et prieur de la Côte d'Or. Une première tentative est faite à la demande de Robespierre, d'une école de Mars, recrutée essentiellement parmi les sans-culottes, ou les enfants de sans-culottes. Mais elle échoue devant l'ignorance et la préparation insuffisante des élèves. Alors après la chute de Robespierre, la Convention adopte le projet d'une école, l'école centrale des travaux publics, qui deviendra dès 1795 l'école polytechnique. Initialement destinée à remplacer les écoles spécialisées existantes, elle sera finalement chargée de donner à ses élèves une formation polyscientifique, les préparant à ces écoles. Le projet fut adopté, malgré l'opposition de la gauche jacobine, inquiète déjà que l'on constituât une caste de privilégiés à qui l'accès des écoles d'application serait réservé. Mais il est clair que l'école fut bien créée pour répondre aux besoins civils aussi bien que militaires. C'est l'Empire qui en fera plus tard une école militaire, surtout d'ailleurs pour contrôler l'activité politique de ses élèves. L'Empire organisa aussi les autres écoles existantes, selon un schéma qui va demeurer inchangé pendant de nombreuses années. Mais d'autres écoles apparaissent ensuite, correspondant à l'évolution des besoins. Ainsi, l'École centrale des arts et manufactures, créée en 1829 par une initiative privée, avant d'être prise par l'État en 1857. L'École des mines de Saint-Étienne, créée en 1816, pour former d'abord des maîtres ouvriers, puis des ingénieurs à partir de 1890. L'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, créée en 1882. L'École supérieure d'électricité, fondée par la Société internationale des électriciens, en 1894. L'École supérieure de télégraphie, créée en 1878, ancêtre de l'École nationale supérieure des télécommunications. Et cette liste n'est évidemment pas exhaustive, puisque l'on compte actuellement en France 226 écoles d'ingénieurs. Alors, la démarche qui a conduit au paysage actuel est simple. Chaque fois qu'est apparu un besoin lié au développement des sciences et des techniques, une école spécialisée a été créée. Soit à l'initiative de l'État, d'abord pour la formation de ses cadres propres, mais aussi de ceux du secteur privé, soit comme l'école centrale par une initiative privée. On doit bien sûr se demander pourquoi ces besoins n'ont pas été pris en compte, comme dans d'autres pays, par l'université ou les universités. Alors, sur ce point, je ne peux mieux faire que citer François Furet, dans une préface au livre de Terrichine sur l'histoire de l'école polytechnique. Il évoque les universités, florissantes à la fin du Moyen-Âge, dont, dit-il, le cœur s'arrête de battre à partir de la Renaissance. Tout en notant que les raisons de cet arrêt n'ont pas été systématiquement élucidées, il ajoute, et je cite, que les universités, si on met à part la médecine et le droit, n'offrent jusqu'à la fin du XIXe siècle que des conférences mondaines. Le jugement est probablement un peu sévère, et plusieurs d'entre vous sont beaucoup plus compétents que moi pour apprécier les raisons de cette désaffection des universités, même après leur refondation par Napoléon. Pour un non-spécialiste, il est tentant d'attribuer cette difficulté à s'adapter aux évolutions des besoins économiques, précisément au modèle trop centralisé napoléonien. Mais je veux dire que lorsque j'évoque ce sujet avec mes collègues d'Europe du Nord, il semble que le modèle de Humboldt, d'une université intégrée à forte autonomie, n'ait pas permis une meilleure adaptation aux réalités économiques. C'est peut-être bien l'existence même d'un modèle unique, qu'il soit consacré par la loi, comme en France, ou par la tradition, comme dans les pays germaniques, qui a été l'obstacle aux évolutions nécessaires, par rapport à des approches anglo-saxonnes, où les institutions ont mieux su s'adapter par des évolutions différenciées et accueillir en leur sein des approches nouvelles. Quoi qu'il en soit, les universités françaises ont connu leur renouveau à partir de la fin du XIXe siècle. Je crois que c'est la loi de 1896 qui leur rend le nom d'université, jusqu'alors réservé à l'université napoléonienne avec un grand U. Mais à cette époque, le développement des écoles d'ingénieurs et leur séparation d'université est déjà un fait accompli, sur lequel il est difficile de revenir. Et les initiatives que prendra plus tard l'université pour former des ingénieurs, soit par la création des INSA, soit par celle de l'Université technologique de Compiègne, n'ont pas sensiblement modifié la situation. Alors après ce rappel historique, je voudrais maintenant aborder ce qui fait la spécificité et la force de nos écoles d'ingénieurs, mais aussi leurs défauts, et surtout la façon dont elles ont évolué avec leur environnement. Parlons d'abord peut-être de l'ingénieur, de son rôle, des caractéristiques de l'ingénieur, et plus spécifiquement de l'ingénieur à la française, tel que notre système l'a défini. Alors, l'ingénieur, c'était à l'origine celui qui construisait un engin de guerre. Mais actuellement, la commission des titres d'ingénieur, qui veille jalousement à la qualité du diplôme français d'ingénieur, en donne la définition suivante. L'ingénieur, c'est celui qui peut, je cite, « résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, la réalisation et la mise en œuvre de produits, de systèmes et de services. Cette aptitude résulte d'un ensemble de connaissances techniques d'une part, économiques, sociales et humaines d'autre part, reposant sur une solide culture scientifique. » La définition du Conseil américain des ingénieurs est légèrement différente, mais assez similaire. Bien sûr, ces définitions couvrent des rôles assez variés, depuis l'ingénieur de conception, l'ingénieur de bureau d'études, l'ingénieur de production ou l'ingénieur d'entretien. Et le niveau auquel cette fonction peut être assurée peut aussi être très différent. On peut se rappeler qu'en américain, engineer, ça désigne d'abord le conducteur de locomotive. Alors les ingénieurs français, eux, se situent traditionnellement dans le haut de la gamme par rapport à leurs collègues étrangers. Dans notre industrie, l'industrie cimentière, par exemple, nous attendions et nous attendons toujours, classiquement en France, des ingénieurs, même débutants, une contribution immédiate au progrès de nos usines. Alors que nos collègues américains passaient traditionnellement par une phase d'apprentissage du métier beaucoup plus longue et avaient pour mission de gérer au mieux les usines plutôt que de les améliorer. Donc une différence de conception du rôle d'ingénieur au profit de l'ingénieur français. Mais cette définition de l'ingénieur montre aussi la différence qu'il y a entre ingénieur et homme de science, et donc la nécessaire différence dans la formation qu'ils doivent recevoir. Claude Maury, qui au sein du CEFI a consacré sa vie aux écoles d'ingénieurs et qui en est un des meilleurs spécialistes, m'a fait connaître le travail d'un ingénieur devenu philosophe et directeur de recherche à l'Université technologique de Compiègne, Bruno Bachimont. Celui-ci expliquait ainsi en 2005 que pour l'ingénieur, les connaissances théoriques sont insuffisantes et qu'il faut y ajouter l'expérience, c'est-à-dire, je cite, le souvenir de circonstances particulières dont on tire des enseignements transposables, puis la prise en compte de la complexité et enfin la dimension de l'expertise, c'est-à-dire, je cite, le lien étroit entre une connaissance et la personne qui la détient. Évoquant Aristote, il assimile l'homme de science au sage, à celui qui s'intéresse à un savoir en tant que tel dans la perfection de sa théorie, tandis que l'ingénieur est plutôt le sagace qui utilise son intelligence pour résoudre des problèmes réels. Et alors que l'activité du savant est de l'ordre de la démonstration, celle de l'ingénieur est dans la délibération entre les différentes façons de poser un problème ou les différentes solutions possibles à mettre en œuvre. Cette opposition est peut-être un peu simplificatrice et il y a sans doute des zones de recouvrement entre les deux comportements, mais elle permet de comprendre pourquoi, dans les universités étrangères, les facultés d'ingénierie sont le plus souvent distinctes des facultés des sciences, alors que nos universités n'ont jamais vraiment accepté de reconnaître pleinement cette distinction. Et les caractéristiques de l'ingénieur que je viens de décrire expliquent beaucoup des éléments forts de l'approche pédagogique qui a été caractéristique des grandes écoles. Une formation scientifique de base plutôt généraliste, avant toute spécialisation, un rôle important donné au stage de façon à accélérer la construction de l'expérience par la confrontation au réel, et une place significative pour les enseignements de sciences sociales, d'économie, voire de gestion, afin de préparer les élèves aux conditions de la décision dans l'entreprise. Alors je ne vais pas prétendre que nos grandes écoles aient toujours été à la hauteur des exigences qui résultent de notre définition du rôle de l'ingénieur. Comme les autres institutions d'enseignement, elles ont eu leur période difficile, elles ont dû évoluer avec leur environnement, elles ont parfois eu du mal. Citons la défaite de 1870, que certains attribuèrent à la dominance de polytechniciens assis sur leur certitude. Citons la période d'entre-deux-guerres, où la physique française, dans les écoles comme à l'université, ne fut pas à la hauteur des développements internationaux. Citons l'engourdissement pédagogique des années 50, réveillé opportunément dès avant 68 par les réformes de Bertrand Schwartz à l'école des mines de Nancy, rapidement imitées par l'ensemble des écoles. Mais actuellement, on peut dire que les entreprises sont globalement satisfaites, je dirais même très satisfaites, du produit que délivrent les grandes écoles françaises d'ingénieurs. Dans leur développement international, ces ingénieurs ont joué et continuent à jouer un rôle essentiel, et la comparaison avec les ingénieurs recrutés dans d'autres pays est le plus souvent à l'avantage des ingénieurs français, dont les capacités d'adaptation sont souvent supérieures. Je crois qu'il est important de souligner ce constat avant d'évoquer les critiques, et elles sont nombreuses, faites à notre système. D'abord, la critique du malthusianisme. C'est vrai que, comme nos écoles sont fondées sur le principe d'un concours sélectif, il est tentant de défendre la qualité des élèves, la position des anciens élèves en restreignant les nombres, plutôt qu'en faisant évoluer les effectifs selon les besoins de l'économie. Cette critique n'est donc pas injustifiée, mais en fait, l'une des forces des écoles a quand même été de conserver une taille qui permet à ces écoles un management efficace et une proximité suffisante entre direction, enseignants et élèves. Et finalement, par la création de nouvelles écoles, le système a su évoluer avec des effectifs qui sont passés maintenant à 30 000 étudiants. Mais le symbole de l'école polytechnique, tête de réseau, de sa forte sélection, dont Claude Allègre nous disait quand même qu'elle n'est pas différente de celle de Harvard, en termes de pourcentage, ce symbole est tellement puissant que le rapport Attali faisait du quadruplement du nombre des élèves de Polytechnique l'une de ses propositions de réforme. Je ne crois pas personnellement que l'accroissement homothétique des effectifs soit nécessairement une bonne solution. Mais il est sans doute souhaitable d'augmenter la capacité globale de nos écoles, plutôt par une diversification de leur recrutement et par une croissance des effectifs internationaux. La deuxième critique, qui est sans doute plus justifiée, est la fragmentation du système. L'élève d'une école française y est souvent entré plus par le hasard de son classement au concours que par une véritable vocation pour les technologies ou le domaine industriel correspondant à l'école. Et une fois qu'il y est, il se trouve un peu enfermé dans une institution de taille et de ressources limitées, sans les possibilités de croisement interdisciplinaire ou de réorientation qu'une grande université pourrait lui donner. De plus, quelle que soit la qualité d'une école, sa taille limitée, moins de 1500 étudiants par exemple pour l'École des Mines de Paris, lui confère une visibilité internationale faible. La troisième critique concerne le mode de sélection des élèves des grandes écoles et plus spécifiquement le système des classes préparatoires. Les concours sur épreuve, avec leur avantage d'anonymat et d'impartialité, ont été inventés par la République pour éviter le favoritisme et la reproduction des castes privilégiées. Et ils ont certainement contribué à l'émergence d'une méritocratie républicaine au XIXe et XXe siècle. Les classes préparatoires, elles, ont été mises en place au départ par des lycées qui voulaient, sans qu'il y ait eu de décision générale d'organisation, aider leurs élèves à passer les concours. Et le système s'est progressivement étendu jusqu'à constituer actuellement un premier cycle d'études supérieures géré par des établissements du secondaire et alternatif au premier cycle universitaire. Alors la subordination de cet enseignement aux nécessités du concours a donné à ce système ses caractéristiques actuelles. Intensité de travail, voire bachotage, place donnée aux mathématiques, outils de sélection intellectuelle commode et reconnu, faible place donnée à tout ce qui pourrait être travail de groupe, tout ce qui pourrait être démarche inductive ou développement de l'initiative ou de la créativité. Mais en même temps, je dois dire que le contraste avec les premiers cycles de l'université, surchargés par la croissance du nombre des étudiants et traversés par les courants contestataires d'après 68, s'est accentué. Fait plus important et sans doute plus grave, la capacité des écoles et des lycées à orienter en amont les élèves à bon potentiel, indépendamment de leur origine ou de leur situation sociale, vers les classes préparatoires, c'est, on doit l'admettre, beaucoup affaibli. Le système fonctionne donc actuellement de moins en moins comme un outil de promotion sociale. Le pourcentage des élèves ayant un père commerçant, artisan, employé, ouvrier ou technicien ou instituteur, c'est-à-dire ces couches moyennes, qui était supérieur à 30% dans les années 60, a baissé à 15% maintenant. Tandis qu'un élève sur trois a un père cadre supérieur et une mère enseignante. De ce fait, bien qu'elle ne soit pas facile à mettre en œuvre, une évolution du système de sélection apparaît souhaitable à beaucoup. Alors pour diversifier le recrutement, plusieurs écoles ont organisé un accès en deuxième année sur dossier pour des diplômés de l'université. Et l'expérience a montré que ces élèves étaient tout à fait à la hauteur de ceux recrutés par le concours classique. Mais personne n'a osé, en tout cas pour les élèves français, passer du concours sur épreuve à une admission sur dossier. Une telle évolution supposera sans doute que l'attitude de la société française vis-à-vis de la sélection évolue. Lorsque tous les établissements d'enseignement, y compris les universités, sélectionneront leurs élèves en fonction de leurs aptitudes, de leur expérience et de leur profil, il sera sans doute possible d'assouplir la contrainte du concours. Alors, l'une des idées souvent évoquées, c'est le rattachement des classes préparatoires aux universités. Une décision globale de transfert aurait sans doute aujourd'hui comme conséquence de détruire le système et par là même d'affaiblir les écoles. Mais pourquoi une université ne pourrait-elle organiser un cycle préparatoire dans des conditions correspondant à son propre projet et en concurrence avec le dispositif actuel? Si le résultat de telles expériences était positif, il montrerait qu'il y a en fait beaucoup plus d'évolution, de possibilités d'évolution qu'on ne le croyait. Mais au-delà de ces différentes critiques que j'ai mentionnées, la principale critique souvent faite aux écoles est dans leur relation avec la science. Et c'est à cela que je veux venir. Le modèle de transmission des connaissances fortement axé sur l'expérience, fondé sur les raisons que je vous ai indiquées, privilégiait historiquement dans les écoles le recours à des enseignants extérieurs, notamment praticiens, et donnait peu d'importance à la recherche. Ce modèle était satisfaisant tant qu'un praticien éclairé pouvait se tenir facilement à jour dans ses connaissances théoriques. Mais il a été mis en cause par l'accélération des découvertes et l'obsolescence plus rapide des théories scientifiques. D'autre part, l'écrémage des meilleurs élèves du secondaire par les classes préparatoires et les grandes écoles conduit les meilleurs élèves des disciplines scientifiques dans des parcours qui les éloignent des sciences et de la recherche, en les orientant vers des carrières d'ingénieurs, mais plus souvent et plus récemment encore, vers des postes de manager, voire de banquier ou de consultant. Il n'est donc pas surprenant que les plus grands scientifiques de notre pays se plaignent d'être privés de leurs meilleurs élèves potentiels. Pour reprendre l'expression citée ici même par Claude Allègre lors de sa communication, la France serait donc le seul pays où, dans les disciplines scientifiques, les meilleurs élèves ne rencontrent jamais les meilleurs professeurs. Cette vision est en réalité assez caricaturale, car la réalité des grandes écoles d'aujourd'hui ne correspond plus, et en fait n'a jamais correspondu tout à fait, à ce modèle que j'évoquais. Et je voudrais précisément aborder maintenant la relation des écoles avec l'excellence scientifique et les évolutions en cours, qui, je crois, peuvent répondre aux critiques précédentes. Alors commençons, en bon français épris de précision conceptuelle, par préciser ce qu'on peut entendre par excellence scientifique. Le rapport d'un groupe de travail dédié aux défis de l'excellence scientifique et technologique, mis en place sous la présidence de Pierre Tambourin, le président de Génopole, dans le cadre de l'opération Futuris en 2004, donne une définition de l'excellence scientifique. C'est, je cite, « la capacité d'un système à produire des connaissances nouvelles en quantité et en qualité, de meilleure manière que d'autres systèmes existants ». Mais je suis tombé un peu par hasard sur une autre définition, celle du Centre américain de Los Alamos, qui en 2006 résume les critères de l'excellence scientifique dans le mot « impact », c'est-à-dire la différence que l'on peut faire pour une nation, pour le monde et pour la science. Et cet impact dépend, selon Los Alamos, de trois facteurs, et pas simplement d'un. La qualité de la science et de la technologie développée, bien sûr, mais aussi sa pertinence par rapport aux missions et aux objectifs de l'institution, et également le leadership, avec votre permission, j'ai renoncé à traduire ce mot, exercé, qui peut influencer les directions de recherche prises par d'autres bien au-delà de l'institution concernée. Je trouve cette définition plus large, intéressante, et j'y adhérerai volontiers. Mais j'aurais personnellement tendance à élargir encore un peu les critères de l'excellence scientifique en ajoutant un autre élément qui me semble particulièrement pertinent à notre époque où la science est à la fois objet d'attraction et objet de répulsion. Un centre d'excellence scientifique me semble aussi devoir donner à la science un visage attractif qui inspire aux jeunes le désir de contribuer au progrès scientifique et à la société une compréhension et une acceptation de la démarche scientifique. Alors comment se situe, historiquement et dans son évolution récente, notre système des grandes écoles par rapport à ces critères? En décrivant la création même des premières écoles, j'ai déjà prononcé des noms qui par eux-mêmes évoquent l'excellence et le progrès de la science. Monge, Laplace. Mais on peut citer aussi d'autres noms du 19e. Poisson, Cauchy, Arago, Fresnel, Becquerel, Charles, Quélussac, Carnot sont tous passés par nos écoles et ont donné leur nom à des théorèmes ou des principes que les scientifiques du monde entier connaissent encore aujourd'hui. Et si l'on prend au 20e siècle la liste des prix Nobel français, qui certes ne sont pas assez nombreux, on constate que sur un total de 20 lauréats des prix Nobel scientifiques en dehors de la médecine et de l'économie, 9, c'est-à-dire presque la moitié, sont des anciens élèves des écoles d'ingénieurs ou ont été associés à une de ces écoles. Parmi les plus récents en particulier, Pierre-Gilles Degène a été directeur de l'école de physique et chimie de Paris. Georges Charpak est un ancien des mines de Paris et enseignera également en physique et chimie. Yves Chauvin, un ancien de l'école supérieure de chimie de Lyon. Ajoutons que le seul prix Nobel français d'économie, notre confrère Maurice Allais, a effectué toute sa carrière à l'école des mines de Paris. Alors la vérité oblige à ajouter que plusieurs de ces prix Nobel ont aussi travaillé, à un moment ou un autre de leur carrière, dans le cadre de l'université. Mais cette liste dément en tout cas l'image de grandes écoles complètement coupées de l'excellence scientifique. De fait, la situation des différentes écoles vis-à-vis de la recherche, qui était assez différente selon les écoles, a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Certaines écoles, comme l'école polytechnique, ont toujours eu des professeurs de grande renommée scientifique qui avaient la possibilité de développer autour de leur chaire un laboratoire. Adapté à l'évolution de la science du 19e, ce fonctionnement artisanal y a produit des résultats d'excellence, et je vous ai cité quelques noms qui en sont le témoignage. Mais il a bien sûr dû évoluer au 20e siècle, lorsque la recherche en physique ou en chimie demandait des moyens humains et techniques plus considérables. Les laboratoires de l'école polytechnique se sont ainsi développés en liaison avec le CNRS, qui a fourni une bonne partie des moyens nécessaires. Ils comprennent actuellement près de 1500 chercheurs répartis pour l'école polytechnique, répartis en 22 laboratoires dans toutes les disciplines, depuis les mathématiques et la physique jusqu'aux sciences de la vie et à l'économie. D'autres écoles ont choisi d'autres voies. Je ne peux citer ici toutes les écoles, mais je voudrais évoquer le travail remarquable fait à l'école des mines de Paris par Pierre Lafitte, qui a été aussi le fondateur de Sophia Antipolis. Secouant une école qui s'était un petit peu endormie, il mena de 1963 à 1984 une politique de développement de la recherche qui sera poursuivie par ses successeurs, créant des laboratoires à Fontainebleau, puis plus tard à Sophia Antipolis. Adoptant une approche très différente de celle de Polytechnique, il appuya la plupart de ses centres de recherche sur l'obtention de contrats industriels, plus que le soutien du CNRS ou des grands organismes nationaux de recherche. Ainsi, actuellement, l'École des mines de Paris, pourtant d'une taille limitée puisqu'elle a moins de 1500 élèves, a plus de 700 chercheurs, avec un budget de recherche de près de 65 millions d'euros, financé à 40% par des contrats privés. Ce développement de la recherche a entraîné également un développement des formations doctorales. Alors qu'au départ, les universités avaient conservé un strict monopole de délivrance du doctorat, certaines des écoles d'ingénieurs, qui justifiaient de moyens de recherche et d'une capacité d'encadrement suffisante, ont été autorisées à délivrer leur propre doctorat. C'est le cas, par exemple, de l'École polytechnique, des ponts, des mines, de l'École centrale des arts et métiers, de physique et chimie de Paris ou des télécoms. Dans d'autres cas, pour d'autres écoles, les formations doctorales sont organisées en commun par l'école et une université dans le cadre de conventions de partenariat. Alors, cet effort de recherche a donné des résultats significatifs. Le rapport Chabal sur l'avenir de l'ingénierie estime à 8500 le nombre de chercheurs des grandes écoles d'ingénieurs, et les écoles forment environ 2000 docteurs par an, sur un effectif total en France hors sciences humaines et sociales de l'ordre de 6000, donc un tiers des docteurs dans les disciplines scientifiques. La place des écoles en matière de recherche n'est donc nullement négligeable, contrairement à une idée communément reçue. Mais il faut bien admettre que cette recherche est, comme les écoles elles-mêmes, fragmentée, avec des laboratoires souvent de taille insuffisante et des niveaux de qualité et de reconnaissance internationale inégaux. De ce fait, nos écoles sont, comme nos universités d'ailleurs, mal placées dans les classements internationaux. Le plus connu, le classement de Shanghai, dont le critère principal est le niveau des publications de recherche, place l'école polytechnique au-delà du 200e rang, tandis que les universités Paris 6 et Paris 9 sont, elles, classées respectivement 42e et 49e. L'autre classement internationalement reconnu, celui du Times, nous est un peu plus favorable. L'école polytechnique est classée au 34e rang, derrière l'école normale supérieure, 28e, mais devant la première université française, qui est 149e. Les deux classements ne comportent dans les 10 premiers que des universités américaines ainsi que Oxford et Cambridge. Mais des universités du Japon, du Canada, de Suisse ou de pays émergents réussissent à figurer dans les 100 premières. Alors, il est clair que la structure de ces classements favorise les universités anglo-saxonnes puisqu'ils sont construits à partir de leurs critères d'excellence. On peut donc contester leurs résultats et estimé qu'ils ne rendent pas justice à la qualité réelle de notre système, et qu'il est en particulier étrange que l'enseignement ait aussi peu de place dans les critères retenus. Mais il reste que ces classements traduisent une réalité, le manque de rayonnement et le manque de reconnaissance internationale de notre système, sa fragmentation excessive, ainsi que la trop grande distance entre recherche et enseignement. Et ces classements ont joué un rôle très utile de révélateur pour que tous les acteurs, conscients de la nécessité de réforme, reconnaissent enfin la nécessité de changements profonds. Alors, parmi les réflexions récentes sur l'évolution nécessaire des grandes écoles d'ingénieurs et leurs relations avec les universités, j'ai déjà cité le rapport Chabal, le rapport demandé à la fois par la Conférence des grandes écoles et par les conseils généraux des mines et des technologies de l'information, un groupe de travail présidé par Robert Chabal, ancien directeur général du CNRS, et composé ce groupe de travail essentiellement de dirigeants d'écoles et d'universités. Alors, ce rapport a reconnu à la fois les caractéristiques des formations d'ingénieurs, la nécessité de regroupement pour atteindre taille et reconnaissance internationale, et qu'il y avait un rapprochement souhaitable avec les structures universitaires. Et il suggère que les écoles deviennent, dans des configurations adaptées avec les réalités locales, des collégias d'ingénierie. Le mot « collégium » est préféré à « collège » pour éviter toute confusion avec nos collèges du secondaire, de grandes universités multidisciplinaires. Compte tenu des fortes différences de gouvernance entre écoles et universités, un tel rapprochement devrait laisser une très grande autonomie aux écoles dans des structures souples permises par la loi sur les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES. C'est finalement un peu ce que Claude Allègre, dans sa communication ici même, avait préconisé, estimant même que c'était facile à réaliser. Je suis personnellement plus réservé, car il me paraît difficile d'effectuer un rapprochement institutionnel réel et efficace entre des entités dont les principes d'organisation, les règles de gouvernance, les modes de financement et finalement la culture seraient trop différents. Soit un tel rapprochement restera formel, soit les écoles, partenaires beaucoup plus petits en taille, risquent d'y perdre les caractéristiques mêmes qui ont fait leur succès. Je ne méconnais pourtant pas la possibilité qu'un rapprochement au sein d'un même PRES permette d'établir des liens assez lâches au début, qui puissent se resserrer au fur et à mesure que les universités, des universités autonomes, évolueraient vers des modèles moins incompatibles avec ceux des écoles. Mais tout serait alors une question de gestion du temps et de gestion du changement. Alors un autre modèle est en cours de réalisation, qui me paraît permettre à un certain nombre d'écoles parisiennes la transition vers une véritable université technologique parisienne avec la création de ParisTech, l'Institut parisien des sciences et des technologies, et je voudrais vous en dire quelques mots. Cet ensemble, issu d'une décision de coopération prise entre une dizaine d'écoles parisiennes il y a déjà une dizaine d'années, s'est constitué en une sorte de fédération d'écoles qui ont décidé de poursuivre en commun un certain nombre de stratégies. Il réunit 10 écoles d'ingénieurs, Agro, Arts et Métiers, Chimie de Paris, Pont, Polytechnique, l'ENSAE, l'École de la Statistique, l'ENSTA, École d'Armement, Physique et Chimie Industrielle, Mines et Télécom. Et il a récemment accueilli HSC avec l'ambition que HSC devienne la Sloan School de ce MIT parisien. Pourtant, plutôt que du MIT, la structure mise en place s'inspire davantage du modèle de Cambridge, où des collèges largement autonomes forment ensemble une université. Nos écoles ont en effet des origines, des traditions, des rattachements et des financements très différents. Elles sont en concurrence pour l'accueil des élèves des classes préparatoires, selon des hiérarchies de classement subtils, devant autant ou davantage à l'histoire qu'à la réalité actuelle. Toute fusion ou toute uniformisation de leur régime serait donc très difficile, comme l'a montré d'ailleurs l'échec de la fusion il y a 2 ans entre l'école des mines et l'école des ponts et chaussées. Mais il a été possible, en utilisant la loi de 2006 sur la recherche, de créer entre ces écoles membres de ParisTech un PRES, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, géré par un établissement public de coopération scientifique qui a été créé au printemps 2007. Cet établissement public est administré par un conseil et comporte un conseil d'orientation stratégique que j'ai l'honneur de présider. Sa création suivait l'établissement d'un plan stratégique 2015 mise au point de façon très professionnelle, avec le concours pro bono de McKinsey, et approuvée par les conseils et les directions de toutes les écoles membres. Alors, ce plan formule la vision d'une université parisienne technologique d'excellence, ouverte à la coopération avec les autres institutions universitaires parisiennes, est capable de concurrencer les grandes universités technologiques internationales. Il prévoit la mise en commun de ressources et le dégagement de synergies dans les différents domaines de l'activité des écoles. La formation d'ingénieurs d'abord, avec une harmonisation des cursus, permettant aux étudiants de profiter de l'ensemble des possibilités ouvertes par les écoles, quelle que soit leur école de rattachement. Les formations de master, où doivent se multiplier les initiatives inter-écoles, souvent d'ailleurs en coopération avec les universités. Un exemple de ce genre d'initiative est le programme de master international en ingénierie nucléaire, en cours de mise en place, avec le soutien des grandes entreprises du secteur. Troisièmement, le doctorat, où l'ambition est de former des docteurs qui aient montré leurs compétences en recherche, bien entendu, mais est aussi, pour ceux qui le souhaitent, été préparés à entrer dans l'entreprise. Il me paraît en effet essentiel au développement de la recherche française que la formation doctorale soit pleinement reconnue par les entreprises, comme aux États-Unis ou en Allemagne. Un club d'entreprises est en cours de constitution pour appuyer cette action. Sujet suivant de synergie et de mutualisation, la recherche, où les domaines d'excellence des écoles doivent être privilégiés, où des initiatives multidisciplinaires entre écoles doivent être plus fréquentes, où les coopérations avec grands organismes et les universités doivent être développées, et où la poursuite d'une excellence internationalement reconnue doit s'appuyer sur une évaluation rigoureuse. La coopération avec les entreprises, à la fois par la création et le financement de chaires d'enseignement de recherche, la mise en place de systèmes de bourse, l'action sur le doctorat dont j'ai parlé, et la création d'une fondation ParisTech qui canalisera le mécénat des entreprises. Le rayonnement international, par la mise en commun des procédures de recrutement d'étudiants étrangers, comme cela a été fait en Chine avec un grand succès depuis plusieurs années, et par des accords de coopération internationaux. Ainsi, l'Ivy League, qui joue évidemment sur un jeu de mots sur Ivy League, un réseau d'une dizaine de grandes universités européennes, comprenant notamment Imperial College, le Polytechnicum de Zurich, l'Université de Delft ou celle d'Aix-la-Chapelle, qui n'avait pas trouvé d'université ou d'école française à accueillir dans son sein, a choisi ParisTech comme son partenaire français. Enfin, dernier point de mise en commun par les écoles, une image de marque commune. Toutes les écoles ayant décidé d'accoler le nom de ParisTech à leur nom propre. C'est pour cela que vous entendrez maintenant parler de mines ParisTech, de arts et métiers ParisTech, etc. Les écoles ont également décidé de demander à leurs chercheurs et professeurs de publier toujours avec la mention ParisTech. Des étudiants de l'école des Ponts ont fait le calcul que si toutes les publications étaient faites sous le nom de ParisTech, dans le classement de Shanghai, l'ensemble remonterait au 20e rang. Ce qui n'est pas encore idéal, mais ce qui serait déjà pas mal. Et puis, la mise en ligne de l'ensemble des cours des écoles de ParisTech sur un site qui est devenu très vite le plus fréquenté des sites de ce genre après celui du MIT. Alors cette fédération d'écoles en cours de constitution a les atouts nécessaires pour se mesurer avec les plus grandes universités technologiques. Elle a à peu près 19 000 étudiants, ce qui est deux fois plus que le MIT et un peu plus que Cambridge. Elle délivre 6 200 diplômes par an et surtout 500 diplômes de doctorat. Et là, nous sommes encore à la moitié de Cambridge, et un peu en dessous des MIT. Le pourcentage d'étudiants étrangers en graduate school à 24% est également significativement inférieur aux 36% du MIT et aux 50% de Cambridge. Et ces laboratoires réunissent plus de 6000 chercheurs. Et l'examen du budget consolidé des trois institutions est très instructif. Les financements publics de ParisTech, qui sont autour de 550 millions d'euros par an, se situe entre Cambridge, 400 millions d'euros, et MIT, qui, bien qu'université privée, reçoit en subside ou contrat public 750 millions d'euros. Mais ces financements publics représentent pour ParisTech 72% du budget total, contre 49% au MIT et 35% à Cambridge. Droits d'inscription, contrats de recherche privés et mécénat des entreprises ou des anciens élèves permettent ainsi aux concurrents anglais et américains de disposer d'un budget total très supérieur. C'est le double pour MIT. Cette comparaison montre bien les directions dans lesquelles ParisTech doit progresser. Recherche et formation doctorale, ouverture internationale et rassemblement de concours privés sont exactement les directions que j'ai déjà mentionnées en décrivant le plan stratégique 2015. Alors pour ce qui concerne les relations avec les universités, ParisTech a signé des accords de partenariat privilégiés avec le Presse Paris Sud, donc qui comprend la faculté d'Orsay, et avec l'Université de Marne-la-Vallée, qui, à Marne-la-Vallée, construit avec l'École des Ponts ParisTech un pôle d'urbanisme habitat très vivant. Nous travaillons aussi à un partenariat avec Paris 5, la grande université médicale. En effet, dans la comparaison internationale, l'ingénierie médicale est un domaine de développement important qui manque pour l'instant à la panoplie de nos écoles d'ingénieurs. Par rapport aux recommandations du rapport Chabal que j'évoquais tout à l'heure, ParisTech est à l'évidence une construction originale, notamment en raison de la place de l'école polytechnique. Car, comme vous le savez, contrairement à ce que son nom suggère, l'IX est évidemment plus une école scientifique qu'une école d'ingénieurs. Elle en a tellement conscience qu'elle oblige maintenant ses élèves à faire dans un autre établissement une année supplémentaire nécessaire à la délivrance du diplôme de l'école. Ses laboratoires et ses enseignements sont largement tournés vers la science fondamentale et ils souffrent de leur décalage avec la vocation de la grande majorité des élèves désireux d'aller vers le monde économique plutôt que vers la science. Et l'école, si elle reste seule, peut difficilement sortir de cette contradiction. Au contraire, elle peut être, dans l'ensemble ParisTech, la tête scientifique de l'ensemble où s'équilibrent ainsi science et technologie. Une opportunité supplémentaire s'ouvre à la structuration de ParisTech par les projets de développement du plateau de Saclay. Lorsqu'en 1970, notre confrère Louis Armand avait conçu le déplacement de Polytechnique à Palaiseau, c'était déjà avec le projet de créer, en regroupant autour d'elle ces écoles dites d'application, ce MIT français dont il rêvait. Mais le plateau de betterave de Palaiseau n'était à l'époque guère attractif. Et toutes les écoles concernées avaient immédiatement freiné des cas de fer, laissant l'IX seul s'exiler à Palaiseau. La situation a bien changé, et plusieurs écoles à l'étroit à Paris souhaitent se regrouper sur le site de Palaiseau. Ainsi, le développement d'AgroParisTech, de l'ENSTA ParisTech et de l'ENSAE ParisTech est quasiment décidé, tandis que Télécom ParisTech et Mines ParisTech envisagent un déménagement partiel. Alors avec les implantations de laboratoires de recherche et la présence de Supoptique, qui est membre associé de ParisTech, et la proximité de l'Université d'Orsay, que certains voudraient d'ailleurs reconstruire sur le plateau, un campus de recherche et d'enseignement très puissant est en train de se constituer. Pour ParisTech, le campus de Palaiseau serait ainsi son campus principal de développement, avec deux autres campus, Marne-la-Vallée, avec l'école des ponts ParisTech et un pôle urbanisme habitat, et la montagne Sainte-Geneviève, où les arts et métiers et les deux écoles de la ville de Paris pourraient se développer, en même temps qu'un centre d'interface entre ParisTech et la société civile parisienne. Toutes les conditions d'une grande ambition semblent ainsi être réunies. Dans un pays où il est toujours difficile de réformer, où la force des habitudes et des conservatismes est toujours présente, le chemin sera parfois rugueux. Mais l'engagement des acteurs, le soutien des pouvoirs publics, le soutien des entreprises et le projet fait en 3 ans dans la mise en œuvre du projet sont pour moi extrêmement encourageants. Ainsi, par ce projet qui est un exemple, et par d'autres qui peuvent être construits entre écoles et universités dans d'autres régions de France, j'espère que nous pourrons construire sur les forces de nos grandes écoles des ensembles à la mesure de la compétition mondiale. Merci.
Vous venez d'entendre la communication de Bertrand Collomb intitulée « Les grandes écoles et l'excellence scientifique » donnée devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques le 2 février 2009.